CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous dans ce MAG, où aujourd'hui, on va vous emmener au cimetière de Caylus, en compagnie du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, en l'occurrence Sandrine Rueffly et Léa Gérardin-Macario, accompagnés du conservateur des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne, Emmanuel Mourou. Au cimetière, donc, aujourd'hui, dans ce MAG à Caylus, donc plusieurs fois déplacé en dehors du bourg depuis la fin du 18e, un cimetière qui sera finalement transféré à l'est de Caylus et agrandi à la fin du 19e. Tombeaux, matériaux, symboles funéraires et autres curiosités de ce patrimoine trop longtemps mésestimé, partant à la découverte de ce lieu chargé d'histoire, de mémoire et reflet de l'histoire locale. Est-ce qu'il a toujours été là ?
Alors, pas du tout. Alors, si on remonte à l'époque médiévale, de façon générale, les cimetières, ils étaient plutôt adossés aux églises paroissiales. Et puis, c'était le cas ici, à Caylus, à l'époque, comme on disait, médiévale, au XIIe siècle. Il était adossé à l'église Saint-Michel, qui se situait à peu près en haut du bourg actuel, au niveau de la promenade haute, l'actuel boulodrome. Et puis en 1774, le cimetière il est transféré à l'éclair de l'agglomération parce que sa proximité était considérée comme aggravant l'épidémie qui décimait les habitants. Alors on édifie un nouveau cimetière qui est béni en 1777 qui se trouvait à l'est du bourg de Caylus. Et puis, le cimetière que l'on a devant nous, que l'on va visiter actuellement, il a une fois encore été transféré et créé au milieu du 19e siècle, puis agrandi dans les années 1890. Alors, c'est plus globalement un cimetière qui découle d'un décret qui était propre à toute la France, le décret de 1804 qui a été instauré par Napoléon Ier et qui donne naissance aux cimetières contemporains français tels qu'on les observe aujourd'hui. Et puis en 1943, il y a une ordonnance royale qui étend ce principe de sortir les cimetières, de les éloigner pour des raisons d'hygiène et de salubrité publique des bourgs. On sépare véritablement à ce moment-là, le domaine des vivants du domaine des morts. Et comme je le disais, l'ordonnance royale de 1943, elle va étendre ce principe à toutes les communes rurales. Voilà, d'où la création au milieu du 19e de ce cimetière à cet endroit-là, éloigné du bourg.
C'est étonnant qu'il faille attendre la fin du 18e siècle pour se rendre compte que la proximité des morts... parce qu'il ne faut pas oublier qu'on inhumait aussi dans les églises. Et que il y avait quand même du monde en dessous. Donc forcément, plus il y a du monde, plus on remonte les tombes, et plus on a des chances d'avoir des épidémies. Et donc il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, et puis ce grand mouvement autour des Lumières, autour de l'encyclopédie, pour se dire qu'il faut sortir tout ce monde-là, du monde des vivants, pour éviter les épidémies à répétition qui frappaient les villes.
On y va ? C'est parti !
Allons-y !
Alors, c'est pas évident à ouvrir. Voilà.
On a aussi une porte, un portail qui ferme et qui ferme bien pour éviter les animaux errants. Parce que dans les cimetières, ça fait pas bon ménage quand même.
Alors, il y a une certaine horizontalité dans ce cimetière avec des tombeaux alignés qui sont plutôt... bas, et il y en a un qui se distingue, qui est un peu plus loin là, au bord de l'allée centrale. On va s'y rendre pour aller voir quel est, j'avais envie de dire cette curiosité, mais ce tombeau qui n'est pas comme les autres.
Pas comme les autres, c'est-à-dire pas nécessairement en marbre avec des écritures dorées.
Oui, parce que nous sommes ici, là, dans la partie ancienne du cimetière. Et ça et là, on se retrouve avec des tombeaux beaucoup plus récents, en granit, avec cet aspect un peu standardisé qu'on a voulu, un effet de mode à partir des années 50, d'avoir ces pierres tombales en marbre, en granit, avec effectivement ces écritures dorées.
Là, on en a un en brique, tiens.
En fait, on a des modèles, standardisés presque sur catalogue qui remplacent le travail des sculpteurs locaux et qui eux, prenaient soin en fonction aussi des revenus de la famille, qui prenaient soin d'édifier des tombeaux très différents les uns des autres.
Celui qu'on va voir, c'est la colonne. Colonne tronquée, la colonne cannelée est tronquée.
Il y a plein de symboles dans les cimetières. C'est intéressant aussi parce qu'on ne se rend pas compte effectivement que ce sont des lieux de patrimoine, mais on va découvrir aussi tout un univers symbolique lié à la mort.
Une grande colonne qui ne passe pas du tout inaperçue en effet, qui fait très romaine.
Effectivement, c'est une colonne qui est brisée, qui est rompue. Elle n'est pas dans sa totalité. Et comme le disait Emmanuel, il y a plein de symboles dans les cimetières, et ça, c'en est un. Cette colonne brisée symbolise l'arrêt brutal de la vie. On l'a dit tout à l'heure, il y a des modes. L'architecture funéraire, elle puise aussi toutes ses sources dans le courant artistique en vogue de l'époque, dans le monde des vivants. Alors, elle est exceptionnelle pour le cimetière de Caylus, ce modèle-là, mais en fait, il était très prisé à cette période, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, d'utiliser, de choisir ce type de tombeau.
On peut aussi trouver des torches renversées qui symbolisent la fin de la vie. Donc on éteint le feu, en fait, de la vie. Et puis, on peut trouver des sabliers aussi, ailés. Donc voilà, la vie s'est écoulée à travers le sablier et le sablier s'envole vers l'au-delà. Donc c'est des images qui sont très présentes dans le cimetière. D'ailleurs, il y en a autour de nous là.
Alors, on sait qui est enterré sous ce tombeau, c'est écrit sur la plaque d'ailleurs, c'est monsieur Alphonse Fontes. C'était un natif de Caylus qui a vécu longtemps en Espagne, à Valence, là où il dirigeait une succursale de maison d'engrais. Et puis, alors, il a fait construire en 1912 ce tombeau familial dans son village d'origine. Et il avait acheté d'ailleurs la concession quelques années avant. Mais il avait certes un tombeau original, mais qui était un peu à l'image de la maison qu'il avait faite construire entre Caylus et Saint-Antonin. Une maison de villégiature, on peut dire, une maison de vacances, qui dénote également du paysage architectural. Donc il y a une sorte de pendant entre la conception de sa maison de campagne et la conception du tombeau qu'il imagine, qu'il projette, qu'il anticipe. Alors c'est quelqu'un qui est décédé en 1918, il est décédé en Espagne, et puis ses restes ont été transférés à Caylus au cimetière dans le tombeau familial en 1924. Alors, à la même période que le tombeau Fontes, on voit qu'il y a une certaine mode, c'est-à-dire fin 19e, début du 20e siècle, il y a une certaine mode et une certaine facilité à acheter des croix en fonte. On en voit un peu partout, avec des représentations différentes, mais ces croix en fonte, bien souvent, elles étaient produites dans l'est de la France, dans le nord-est, en Haute-Marne, et puis elles étaient vendues sur catalogue, diffusé assez rapidement et accessible aussi à tous d'un point de vue prix, c'était beaucoup plus abordable. Voilà.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que ces symboles religieux, ils se mêlent justement à d'autres symboles, comme on l'a dit, qui sont des symboles hérités de l'Antiquité. On va avoir des couronnes, par exemple, qui rappellent les couronnes que l'on mettait sur les tombeaux des défunts à l'époque romaine, ou des cornes d'abondance. Enfin voilà, donc on a quand même cette sorte de syncrétisme entre des symboles païens et puis qui sont associés aux défunts, et puis ces croix.
Monsieur Marcel est fossoyeur, comme il y en a beaucoup ailleurs, mais son sommeil est élastique, il est narcoleptique. Il n'est pas rare qu'entre deux mottes, il s'endorme droit dans ses bottes, ça ne gêne que les survivants de revenir le jour suivant. galoches, à force de dormir sur sa pioche, et les paupières tout en ovale, lourdes comme une pierre tombale. Ici on connaît la rumeur, mieux vaut prévenir quand on meurt, mais sans entrer dans les détails, tout dépendra de ta taille. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfère tu qu'on creuse à la pelle. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfère tu qu'on creuse à la pelleteuse. Quitte à dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère me savoir dans un gruyère artisanal. Moi, je veux un monsieur Marcel.
Ce que j'aime bien dans les cimetières, c'est quand je vois les dates et j'ai l'impression de remonter le temps. Et puis quand je vois aussi des noms, et ben je me dis « Oh, ben ils sont là !» Et puis des fois aussi, j'aime bien quand ben, le lierre, ça fait des boules et qu'après, les branches, elles sèchent aussi et que ça part... comme s'il y avait de l'électricité statique, et des fois je me dis qu'elles ne sont pas allées chez le coiffeur depuis longtemps.
Et il y a des formes de tombeaux que tu trouves plus intéressantes que d'autres ?
Après, les modernes, des fois j'aime bien, mais il y en a, je ne les aime pas toutes, mais surtout les vieilles, ce que j'aime bien, c'est quand elles remontent et qu'il y a une croix en haut, parce que comme ça, ça peut bien faire la bouille de lierre, et comme ça, on peut bien remarquer qu'elles ne sont pas allées chez le coiffeur depuis longtemps.
Vous venez d'entendre le témoignage de Lison, 8 ans, tafophile, dans cette émission où Sandrine Rueffly, du service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy, accompagnée d'Emmanuel Moureau, du Conservatoire des Antiquités et Objets d'Art de Tarn-et-Garonne, nous emmène au cimetière de Caylus. Et on se tourne maintenant vers un caveau.
Alors oui, c'est un autre tombeau assez volumineux et haut également, mais avec une... complètement différent. Hein, c'est une chapelle funéraire. Là aussi, c'était assez en vogue, on va dire, à cette époque-là, pardon. Une chapelle funéraire qui est en pierre de taille et puis qui se présente un petit peu. On en a environ, on en a quatre exactement dans le cimetière de Caylus. Et certaines ont ce fronton triangulaire mouluré qui nous rappelle les temples antiques. Donc ça fait référence là à l'Antiquité. Et puis on a encore l'utilisation ici de matériaux nobles et coûteux. On a une pierre de taille de qualité, hein, qui imite le moyen appareil. C'est une façon, comme pour le bâti dans le monde entre guillemets des vivants, de montrer, d'affirmer le prestige d'une famille.
C'est très ostentatoire, mais ça permettait aussi de se recueillir au plus près des morts, en toute intimité, parce que si on pousse la porte de la chapelle, on va avoir un autel avec des bougies, on va avoir aussi un prie-dieu, on va avoir des plaques, on va avoir tout un tas de souvenirs, parfois des photos aussi, qui rappellent le défunt, et les familles pouvaient une fois de plus se recueillir dans une certaine forme d'intimité.
Il est fermé d'ailleurs par une porte là aussi en fonte. On est dans l'espace privé. Hein. À partir du moment où on sort des allées du cimetière, les allées, c'est l'espace public. Dès lors que le propriétaire achète une concession, donc c'est un droit d'édifier le tombeau dans le cimetière, eh bien, le tombeau est privé, est une propriété privée. Donc ici, il est fermé par aussi une très belle porte en fonte avec énormément. Il y a aussi là toute une symbolique avec.
On a des torches, enflammées qui sont à l'envers. On a des angelots, on a un sablier ailé. On va retrouver une urne aussi voilée. Tout ça rappelle en fait le deuil, la mort. Sur les tombeaux actuels en granit, tu vas retrouver une croix ou rien du tout, mais on n'a plus ces symboles-là. On a perdu aussi ce rapport avec ces symboles qui ne parlent plus. Alors nous, ça nous parle parce que ben on est dans le patrimoine et donc on sait où chercher et quoi chercher et on connaît la signification. Mais voilà, aujourd'hui, si tu poses la question du sablier ailé,
pas grand monde. Qu'est-ce qui symbolise ?
Bah, la fin de la vie, la vie qui s'est écoulée et qui s'envole vers le ciel.
On a des fleurs aussi. Là, c'est des roses.
Bon, alors, c'est peut-être des immortels ou pas. Ou alors, c'est juste pour animer aussi. Hein. Enfin, tout n'est pas symbole. Hein. Il y a aussi du côté un peu.
Oui, mais t'as raison, Manuel, parce que là, on a deux couronnes qui sont des couronnes d'immortels.
Donc, c'est peut-être des fleurs immortelles. En tout cas, si on regarde à l'intérieur de ce tombeau, eh bien, voilà, on a l'impression que la dernière inhumation vient d'avoir lieu. Hein, je crois que c'est quelle date déjà, Sandrine là, on est en...
Alors, le tombeau, on ne l'a pas dit, mais et là encore, c'est écrit dessus. Ça appartenait, il a été édifié en 1896 pour la famille du docteur Ludovic d'Audibertière. Et alors, il l'a édifié, il a acheté sa concession à ce moment-là, pour sa fille qui est décédée à l'âge de 47 ans, qui habitait à Toulouse. Mais voilà, là encore, c'est quelque chose qui est voulu, enfin, qui est réfléchi, qui est voulu, qui est souhaité. On a la volonté de montrer une certaine image de la famille. Et là on est en train de regarder au travers de cette porte en fonte. Et ce que décrivait Emmanuel tout à l'heure est resté... on a l'impression qu'on a eu un arrêt dans le temps. Tout est resté figé avec le faux autel, les couronnes de perles, le vitrail, et puis l'hommage qui a été fait à leur fille qui s'appelait Amélie. Regarde.
Alors donc une écriture sur
la marche,
ouais. Condé Diona Peri 8T.
C'est concession, c'est gravé sur la marche. Concession à perpétuité. Voilà. Donc ce qui signifie que l'achat fait par la famille est un achat qui n'a pas de limite. Voilà.
Je crois qu'il y a une autre inscription, et Sandrine.
On va faire le tour du tombeau, là. Alors, c'est très peu commun. Sur le côté est inscrit « Personne après ma fille, ma femme et moi ne de... » J'arrive plus à le lire.
Ne
devra être inhumé dans ce caveau. Donc là, je pense que la volonté de ce médecin, de ce propriétaire est claire. Ce caveau est réservé uniquement aux personnes citées. Alors ça, c'est une inscription qu'on n'a jamais vue ailleurs dans les environ 150 cimetières de l'Est de Tarn-et-Garonne du pays Midi-Quercy. On n'avait encore jamais vu cette inscription. Voilà, c'est assez surprenant que sa volonté soit ainsi affichée sur le mur de son tombeau. Alors ça n'en finit pas, puisque là on est à l'arrière de cette petite chapelle et on a encore une inscription là qui cette fois mentionne la date du décès de la fille de cette famille d'Audibertière, le 16 juillet 1896, et il est répété que la concession a été acquise à perpétuité.
On aimerait te montrer justement la chance qu'on a dans cette chapelle, comme je disais tout à l'heure, c'est que la vie. Ou la mort, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est arrêté en 1896. Et à l'intérieur, si tu regardes bien, il y a une profusion de couronnes de perles. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que ces couronnes de perles, d'abord, on n'en voit plus que dans les cimetières, et puis on en voit de moins en moins. Ces couronnes de perles, elles étaient très courantes dans cette seconde moitié du 19e siècle, et puis ça s'est arrêté dans les années 60, je crois, Sandrine, un truc comme ça, hein,
alors,
1960. Hein.
Ça s'est arrêté en 1960, à peu près, avec l'arrivée du plastique. Hein. La couronne de perles s'est transformée en couronne en plastique, mais... Il y a les couronnes de perles, évidemment, mais il y avait aussi les couronnes en fleurs naturelles. La couronne a toujours été là au moment des commémorations, des deuils.
Ce qui est extraordinaire avec ces couronnes de perles, alors d'abord il faut préciser que ce sont des petites perles de verre qui étaient fabriquées d'ailleurs en Italie, qui arrivaient chez des fabricants en France, et donc on avait des ouvrières, essentiellement des femmes, parfois d'ailleurs on faisait fabriquer ces couronnes par des aveugles, c'est le cas de l'Institut Braille à Paris. Donc en tout cas ces ouvrières modelaient, façonnaient avec ces perles et du fil de laiton des fleurs au naturel avec des feuilles. Donc en fait on était sur ce principe de couronne de fleurs immortelles qui accompagnait les défunts. Et quand ces couronnes sont à l'abri des intempéries, eh bien, elles sont parvenues jusqu'à nous dans leur état d'origine. C'est le cas pour celle-ci. Il y en a plus d'une douzaine avec plein de couleurs, plein de formes de fleurs aussi, quoi.
Mais on retrouve souvent des couleurs assez similaires, hein, qui sont le mauve, le violet et le noir. Et là, elles sont un tout petit peu ternies, elles ont un peu perdu l'éclat d'origine. Mais on a eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de rencontrer dans ce même cimetière des personnes qui voyaient qu'on s'intéressait et qu'on s'interrogeait sur ces couronnes de perles et qui nous ont dit qu'elles avaient récupéré, elles, des couronnes de perles tout à fait neuve, entièrement neuve, qui là n'avait rien perdu de l'éclat d'origine et qui était les couleurs, c'est assez surprenant, hein, ouais. De voir que les couleurs étaient très vives. Ouais. En fait, c'était des couleurs qui étaient mauve, fuchsia, violet, etc.
Il y avait du vert aussi pour les feuillages.
Oui, pour les feuilles, ouais, qui accompagnaient ces fleurs. Et on a une indication aussi intéressante, c'est que ces couronnes de perles, on a parlé de la fabrication, mais ensuite elles étaient un peu revendues partout, chez les quincaillers. Dans les magasins localement.
Et chez le photographe aussi.
Elles étaient vendues, celles dont on parle là précisément, étaient vendues chez le photographe Brousse à Saint-Antonin. Donc il avait une partie boutique photographique et puis une partie réservée à tout ce qui était éléments funéraires.
On te disait, Lisa, que les croix en fonte étaient accessibles, hein, c'était des prix raisonnables, mais quand vraiment, vraiment, on n'avait pas de moyens, eh bien, on se tournait vers ce qu'il y avait de plus simple, c'est-à-dire une simple croix en bois. Et là, tu vois, on a ces deux frères, là, ces deux frères, Paul et Charles Collonges, qui n'ont qu'une simple croix en bois au-dessus de leur tombe. Et la tombe, elle est d'ailleurs en pleine terre, hein, si tu regardes, il n'y a pas de caveau, il n'y a rien. Mais la croix en bois, malgré le fait qu'elle soit très fragile, elle est quand même restée, leur mémoire est toujours là.
Alors on entend les oiseaux, on voit qu'on est au calme, à l'extérieur donc de Caylus, on est entouré par les vertes collines, on en a vu sur le château, le sol d'ailleurs aussi est vert, on n'est pas dans quelque chose de propre, hein, plein de petits cailloux.
Ça, c'est grâce à l'arrêt des produits phytosanitaires dans les espaces publics que la végétation a pu un peu reprendre ses droits. On a des insectes, on a tout un écosystème qui est là. Et puis, il n'est pas rare qu'on voit se dorer la pilule, j'ai envie de dire, parfois des couleuvres qui se prélassent sur les tombeaux. On a pas mal d'usages du cimetière. On peut réfléchir, on peut apprendre. Enfin, il y a beaucoup de facettes en fait au sein d'un cimetière.
Finalement, c'est un peu la vie qui revient au cimetière. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque médiévale, on vit dans les cimetières. Il y a des marchés dans les cimetières, on danse dans les cimetières, on se retrouve dans les cimetières. Alors, les évêques, ils ne sont pas contents, ils font tout un tas d'édits pour essayer de limiter ça. Mais les cimetières sont des lieux de vie. Et c'est quelque chose qui, ce rapport à la mort a beaucoup changé, notamment au 19e siècle. On a peur un petit peu de la mort, on la pousse. Et aujourd'hui, par cette vie qui renaît au travers des insectes, des animaux, de l'herbe, c'est un petit peu un retour quelque part à une symbiose.
Alors, on vous invite à venir au cimetière, à visiter les cimetières, parce que ce sont des lieux de patrimoine, des lieux de mémoire, avec tout un panel architectural. Et puis, y a aussi tous les éléments qu'on peut trouver sur les cimetières, dont on parlait tout à l'heure, les couronnes de perles, les céramiques. Et ce sont des endroits à découvrir, mais aussi à préserver. Voilà, il faut faire attention que tous ces éléments, ce patrimoine perdure dans le temps.
Les capsules du patrimoine au cimetière de Caylus aujourd'hui, pour une émission soutenue par le programme européen LEADER, la région Occitanie, le département de Tarn-et-Garonne et le pays d'arrêt d'histoire du pays Midi-Quercy. Toutes les capsules du patrimoine sont à réécouter en podcast sur le site cfmradio.fr.